Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Ta team en poukou. Okapi.
Bienvenue dans le Café Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Comment promouvoir la scolarisation des enfants en situation de handicap en RDC? Nous en parlons avec Sarah Lassarque Kibungu, elle est présidente de l'ONG Centre de formation et d'intégration des personnes à mobilité réduite. Bonjour Madame Sarah et bienvenue dans ces rendez-vous de Café Service.
Bonjour de m'avoir accueilli.
Gardez l'écoute, Madame Priscilla Loutete, vous êtes vice-présidente de la CFPMR. Merci de nous rejoindre dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour à vous.
Et si ce thème vous intéresse, chers auditeurs et auditrices, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions, commentaires et témoignages au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple le commentaire de Maître Gaston Gandou qui nous a écrit depuis la ville de Kinshasa. Selon cet internaute, il est important d'investir dans l'adaptation des infrastructures et du matériel, de développer également une politique d'éducation inclusive, de former les enseignants et de promouvoir une culture d'inclusion. Il faut également mettre en place des projets personnalisés de scolarisation, comme les projets personnalisés de scolarisation PPS qui tient en compte les besoins spécifiques de chaque élève en situation de handicap, ce qui est loin d'être le cas en République démocratique du Congo, ajoute cet internaute. Nous attendons également vos suggestions, commentaires et témoignages au courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Naomi Moutoki réalise cette émission. Debsevit est à la prise des sons et Meshak Mboutamoutou s'occupe pour sa part de l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment promouvoir la scolarisation des enfants en situation de handicap en République démocratique du Congo? Nous débattons de ce thème dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Madame Sarah Lassarque Kibungu. Nous rappelons qu'elle est présidente de l'ONG dénommée Centre de formation et d'intégration des personnes à mobilité réduite, CFPMR en sigle. Il y a également Madame Priscilla Loutete qui est la vice-présidente de cet ASBL avec qui nous allons nous entretenir sur cette thématique si capitale et si c'est sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler, chers auditeurs et auditrices, pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. En RDC, environ 45% des enfants handicapés moteurs et 75% des enfants handicapés mentaux âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés contre 28,7% chez les enfants non handicapés. Les enfants ayant des difficultés fonctionnelles telles que la mobilité réduite et les troubles de comportement fréquentent l'école à des taux largement inférieure entre 61 et 62% de cette catégorie d'enfants sont en dehors du circuit scolaire parce qu'il y a moins d'écoles spécialisées pour cette catégorie d'enfants. Alors, que faut-il faire pour promouvoir la scolarité des enfants en situation de handicap en RDC? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service. Madame Sarah Lassak Kibungu, dites-nous, partagez-vous ce constat qui est dégagé par l'enquête des santé et démographie concernant la situation des scolarisations des enfants en situation de handicap ici en RDC?
Oui, merci pour la question, Monsieur Tati. Oui, je partage cette enquête et c'est ce constat que tout le monde peut faire. Comment et combien d'enfants vivant avec handicap en ce moment sont dans les rues en train de mendier et sans pour autant penser à la scolarité. Donc c'est un constat qui est vraiment, vraiment réel et c'est vraiment déplorable pour cette situation. Les enfants en situation d'handicap, pour eux, ils ne savent même pas qu'est-ce que signifie étudier, ils ne vont même pas à l'école et donc c'est un constat vraiment déplorable. Si je peux dire comme ça.
Et pouvez-vous nous faire une idée sur les centres de formation et d'intégration des personnes à mobilité réduite? Quelle est la raison de sa création et quels sont les objectifs poursuivis par cet ASBEL, madame?
Oui, merci. Cet ASBEL, c'est moi qui l'ai créé. Suite, moi-même, je signale que je suis une femme ou une personne vivant avec handicap ou à mobilité réduite. Mmh. Et j'ai eu cet handicap quand j'avais 2 ans, et quand j'avais 2 ans, allez-y comprendre, et j'ai subi des rejets et des maltraitances et même des stigmas. On m'a appelé de tous les noms. Il y en a qui m'ont même traité de sorcière comme porte-malheur de la famille parce que mes parents ont divorcé après ça. Donc j'étais vu comme porte-malheur. Alors, pour quelques-uns, les études n'étaient pas importantes pour moi. Et pour les autres, et pour ma mère qui s'est battue, que je salue en ce moment, que j'aime appeler mon héroïne, pour ma mère, elle me disait à chaque fois, Sarah, si je meurs aujourd'hui, tu vas voir mon cadavre en train de pleurer. Alors moi, je disais pourquoi. Et j'étais encore très petite, je pense que j'avais 8 ans. Elle me disait, je vais pleurer parce que j'étais laissée sans avenir, sans éducation, sans diplôme. Ça sera ça mon malheur. Et je disais pourquoi. Je ne suis pas la dernière, je ne suis pas la première dans la famille. Elle me disait, les autres, tes frères et sœurs, peuvent vendre n'importe quoi. Mais toi, sans études, sans avenir, Sarah, je ne partirai pas en paix si je mourais aujourd'hui. Alors, cette mère, cette femme m'a beaucoup aidée. Elle était ma force, elle était là pour m'aider. Mais j'ai connu beaucoup de rejets. Moi, à Kinshasa, beaucoup de gens m'ont payé les frais académiques, les Minerva, comme on appelle chez nous. Alors, vu tout ça, et aujourd'hui, là, je réside en Suède. Je suis en Suède et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi aider les autres enfants vivant avec handicap qui sont en train de traverser ce que j'ai vécu quand j'étais à mon enfance. Alors, je me suis dit, plus question. Aucun enfant n'a le droit de vivre ce que moi, Sarah, j'ai vécu. On doit donner la chance à ses enfants. Moi, aujourd'hui, je suis en Suède, ni par la force de ma mère, ni par la force de mon père ou de ma famille. J'ai étudié et je me suis battu. Aujourd'hui, je suis en Suède, marié à un Suédois. Là, vous m'appelez, je suis au bureau, je travaille. Alors, je me suis dit, pourquoi n'est pas aussi aider les autres enfants à s'en sortir, leur donner un avenir, être autonome? Ça me dérange, je dois vous dire, messieurs, de voir combien d'enfants, combien de personnes vivant avec handicap sont dans la rue en train de quémander, en train de mendier pour avoir un pain. L'handicap n'est pas synonyme d'une maladie ou bien de quémander l'argent. L'handicap, on peut vivre avec et être autonome. C'est ça.
Merci beaucoup, Madame Sarah Lassark Kibungu. Nous rappelons que vous êtes la présidente du Centre de formation et d'intégration des personnes en mobilité réduite. On vous garde en ligne et rappelons que vous intervenez depuis Suède. Je me tourne vers vous, Madame Loutete Priscilla. Vous êtes la vice-présidente de cette organisation. Partagez-vous avec nous ces constats selon lesquels beaucoup d'enfants en situation de handicap ne sont pas dans les circuits scolaires ici en RDC, ne sont pas scolarisés ici en RDC, selon les constats que nous avons évoqués à l'entame de ces rendez-vous, madame.
Oui, merci pour la parole. Effectivement, je partage totalement il y a un vrai problème. On a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Et qu'on le veuille ou pas, ça reste un droit fondamental, l'éducation.
Madame Priscilla, est-ce que vous avez activé les haut-parleurs de votre téléphone?
Oui, là vous m'entendez mieux?
Désactiver les haut-parleurs, parler normalement.
Ça y est.
Voilà, là ça s'est nettement amélioré. Un petit rappel de votre réponse, allez-y.
Oui.
Bon, on va essayer de vous rappeler. Malheureusement, on s'est déconnecté avec Madame Priscilla Loutete. Nous rappelons qu'elle est vice-présidente du centre de formation et d'intégration des personnes à mobilité réduite. Et Madame Sarah, je retourne vers vous. Dites-nous alors quels sont les grands projets que votre ASBEL réalise en faveur de cette catégorie d'enfants ici en RDC dans le pays.
Merci pour cette question aussi. Donc, comme j'ai dit, je suis une femme du vent avec handicap. J'ai vu la façon dont la Suède s'est occupée de moi et comment la Suède est en charge aussi les personnes en situation d'handicap ou à mobilité réduite. Je me suis dit, c'est vrai, on ne peut pas tout copier. Mais on peut faire quand même le minimum en République démocratique du Congo si on veut. Vouloir ses pouvoirs, comme j'ai toujours dit. Alors, ce que nous faisons, là, nous sommes à Kinshasa, nous sommes aussi dans quelques provinces. Ce que nous voulons d'abord, c'est de créer des centres, comme on a dit. Et les centres, c'est pour que, à Kinshasa, peut-être, on vous dira, non, cet enfant vit son handicap, cet enfant ou bien cette personne n'est pas utile dans la société. Non, c'est pas vrai. Parce que ici, moi, je vois même ce qu'on appelle chez nous, je ne sais quoi, des trisomies qui travaillent ici, travaillent, qui sont même mariés, qui sont dans leur foyer. Alors, on a fait ces centres pour redonner d'abord l'espoir et puis la confiance à ces personnes vivant avec handicap. Et dans ces centres, nous formons, dans ces centres, nous apprenons à partir de l'handicap, des difficultés de la personne. Nous savons, c'est pas tout le monde qui doit aller à l'école.
Non.
C'est pas tout le monde qui doit être. Non. Il y a des handicapés, on voit. Non, ça là, avec l'école, ça ne peut pas aller. Mais il y a toujours, j'ai toujours insisté, moyen de faire quelque chose. Et on s'est dit, celui-là, comme l'école ne peut pas marcher, ça là, ça peut marcher. On essaye, jusqu'à ce qu'on doit trouver la voie pour aider à cette personne qui va avec handicap à être autonome dans l'avenir. Donc, nous formons, et puis, nous nous battons pour que ces personnes soient intégrées dans l'éducation et puis dans le marché de l'emploi. Il y a un système chez nous, bon, je peux pas tout dire. Moi, je travaille au ministère du Travail ici et je suis spécialisée pour l'intégration des personnes vivant avec handicap sur le marché de l'emploi. Alors, je suis chercheur et analyste, donc expert en matière du travail. Et là, et ce que je fais, et que donc j'essaie un peu d'amener ce que nous faisons ici en République démocratique du Congo. On essaie de créer une structure et dans cette structure, c'est nous qui allons nous déplaçons frapper des portes avec les diplômes, ces diplômes pour engager ces personnes vivant avec handicap, bien sûr, en accord avec l'État, pour voir comment faciliter leur intégration dans les marchés de l'emploi. Et puis, notre centre ne se limite pas seulement là-bas, il y a aussi ce qu'on appelle les matériels. Il y en a qui peuvent faire quelque chose, mais qui manque par exemple une fauteuil roulante, des béquilles, pour que la personne soit autonome. Et nous battons ici en Europe pour demander qu'on nous donne des matériels. On envoie en République démocratique du Congo la personne qui a besoin, par exemple là, Monsieur Tati, je profite pour le dire, pour vous le dire, j'ai une fauteuil électrique, c'est vraiment spécialisé, chargeable, et là c'est pour une personne qu'on sent vraiment que non, cette personne ne peut même pas marcher, même pas manier fauteuil manuel. Alors c'est pour que cette personne, à l'aide d'un bouton, puisse se déplacer calmement sur cette fauteuil roulant.
Oui, ben, madame Sarah, il y a une question qui me traverse l'esprit. Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec, par exemple, les ministères des Affaires sociales pour avoir les exonérations de ces équipements?
Merci, c'est une très bonne question. Vraiment, c'est ce que nous sommes en train de nous débattre. Nous n'avons pas d'exonération. Mais c'est-à-dire, nous avons même reçu les bus ici, les bus adaptés aux personnes vivant avec handicap, c'est-à-dire qui s'ouvrent par derrière. Et puis vraiment avec l'ascenseur, la personne peut entrer avec sa fauteuil roulante. Au lieu tout le temps de rester dans les arrêts des bus, mais on n'a pas encore, on cherche, on frappe des portes, mais on n'arrive pas. On nous dit, revenez. Si le ministère des Affaires sociales nous suit en ces moments, vraiment, nous voulons entrer en contact avec eux pour faciliter, surtout pour les matériels.
Je me tourne vers vous. Gardez l'écoute, Madame Sarah. Avant de donner la parole à l'auditeur qui appelle de Mandaka, je donne d'abord la parole à Madame Priscilla Loutete. Nous rappelons qu'elle est la vice-présidente de l'ONG Centre de formation et d'intégration des personnes à mobilité réduite. Ma question était celle de savoir, avant que la liaison se dégrade, est-ce que vous confirmez, vous partagez ces constats selon lesquels il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap qui sont en dehors des circuits scolaires? Et pour l'année scolaire 2025-2026, est-ce que votre ASBEL a des actions concrètes à réaliser en faveur de cette catégorie d'enfants ici en RDC?
Merci pour la parole. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, je confirme par rapport à ce constat. Donc beaucoup d'enfants sont hors du circuit scolaire, ce qui est alarmant. Et cela est dû à un manque de suivi. Cela est dû aussi à un manque d'infrastructures dans les écoles, ce qui ne permet pas à ces enfants d'accéder. Donc tous ces éléments-là perturbent leur quotidien, ont un impact également sur leur avenir. Et ce qui fait que malheureusement, au lieu qu'ils puissent être formés, avoir une vision des projets pour être autonomes, ils prennent un autre chemin, quémander, rester à la maison, dépendre des gens. Et ça, c'est un constat qui est malheureux. Concernant les actions, déjà dans un premier temps à court terme que nous avons mis en place, c'est déjà la distribution de kits scolaires. Donc, nous avons pu faire une évaluation un peu sur le terrain. Et suite à cela, nous avons constaté qu'il y a des parents qui ne peuvent pas scolariser leur enfant par manque de moyens. Alors, nous avons mis en place la distribution de kits scolaires, déjà pour que ces enfants soient équipés, parce qu'il est important pour un enfant d'aller à l'école avec du matériel. Je pense qu'on l'a tous vécu. Quelques semaines, quelques jours avant la rentrée, tous les soirs, tous les matins, on ouvre notre cartable pour vérifier nos cahiers, nos stylets. Et ça fait du bien pour l'estime de soi.
Oui.
Parce qu'on part déjà avec cette mentalité de positive, de réussite, de vouloir réussir une année. Donc ça, c'est déjà une chose que nous avons mis en place. Et nous allons également mettre aussi en place donc des parrainages pour ces enfants dont les parents ne peuvent pas payer les Minerval.
Des parrainages, c'est-à-dire, moi, Monsieur Tati, je peux, par exemple, assurer le paiement des frais scolaires des deux enfants en situation de handicap par les canaux de l'ASBEL.
Effectivement, c'est ça. Avec un suivi qui sera fait au niveau des notes par rapport à l'enfant, pour que la personne donc qui parraine ses enfants puisse voir l'évolution au niveau scolaire.
Nous vous gardons en ligne dans ces rendez-vous. Nous donnons également la parole à la population. Donc, Madame Priscilla et Madame Sarah, restez à l'écoute. Le temps d'aller au standard pour donner la parole aux auditeurs. Et puis, nous allons retourner poursuivre notre entretien. Comment promouvoir la scolarisation des enfants en situation de handicap en République démocratique du Congo? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service. Et si ce sujet nous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 09 706 9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Le premier auditeur nous appelle depuis la ville de Manaka. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Il s'appelle Platini. Platini Mombo, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour, je salue les deux invités.
Nous vous écoutons.
Voilà, merci beaucoup. Oui, voilà, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je sais que la thématique d'aujourd'hui est vraiment une thématique qui est vraiment sur le plan assez vraiment louable, aussi vraiment intéressant. Et j'ai bien suivi les deux invités, comme madame a dit, et aussi les deux invités, comme nous avons dit. Et Tati, moi, je fais allusion parce que le gouvernement congolais a mis en place le peuple autochtone pygmée, l'exonération de la gratuité au niveau de l'enseignement. Et le peuple pygmée étudie gratuitement, fait les ténacopes gratuitement, fait l'étude pygmée gratuitement, présente aussi l'examen d'État gratuitement. C'est tout l'étendue du territoire national. Mais aujourd'hui, personne ne veut avec handicap, oui, c'est bien beau. Mais ça commence à se gêner au niveau des écoles. Moi, j'ai témoigné ici dans la ville de Manaka, il y a un enfant qui allait aller au niveau de l'école. Le bambino, il m'a dit, c'est Caïn, tu vois. Et lui, maintenant, en retour, il dit à son frère, ah, moi, je ne dis pas. Parce que la mort mérite, parce que je suis handicapé, tu vois. Maintenant, au niveau de la, de nos pays, il y a, bon, je sais pas si madame, en fait, qu'est-ce qu'il prévoit, qu'est-ce qu'il planifie, tout sur le plan de l'éducation. Parce que bientôt, là, dans deux semaines, il y a ce qu'on appelle la rentrée scolaire. Et maintenant, comme je vous ai dit, là, je suis maintenant dans une école où je suis venu inscrire mon enfant. J'ai posé la question. Quand j'entends madame, j'ai posé la question de l'économie, j'ai dit que si vous avez déjà inscrit les personnes avec handicap, le docteur m'a dit non. Et l'école où regorge au moins 3000 et quelques élèves. Mais il n'y a même pas un enfant qui vit avec handicap. Tu vois? Donc ça pose un sérieux problème. Ça, la question est que si madame qui est là, c'est ce que la Française dit, si la femme s'engage, tout bouge. Que madame fait le tout, aller au niveau de la présidence, faire le plaidoyer, de créer dans toute une période de l'Occident des écoles pour la formation de personnes de handicap. Parce qu'aujourd'hui, je vais attaquer, vous pouvez être réunis des femmes de place, vous commencez à compter, vous allez voir qu'il y a 80 ou 100 élèves dans une salle de classe. Mais vous ne trouverez jamais un enfant qui vit avec un handicap. C'est un enfant qui vit avec un handicap, c'est un gênant pour les autres. C'est un gênant pour les autres. Donc c'est compliqué parce que vous avez de Manaka, je vous dis qu'il y a au moins 20% des personnes qui vivent avec un handicap.
Oui, parce que lorsque l'enfant en situation de handicap est dans la salle de classe, c'est que ses amis se moquent de lui parce qu'il est handicapé. Le lendemain, il va pas à l'école. Oui. Il va dire aux parents, je pars pas.
Voilà. Donc ça, c'est un témoignage purement et parfois de David Mbaka. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque handicapé, maintenant, comment tu vas faire les cordonneries, Kotonga, tout ça. Alors, si madame vraiment peut nous aider, a fait le plaidoyer au niveau du ministère des Affaires sociales de créer le centre d'association pour l'éducation des handicaps. Ici, il a dit le moment qu'il y en a, mais pour le moment, ça n'existe pas. Parce que souvent, les ONG vivent avec des partenaires comme au niveau des États-Unis, on paye de donner, de faire fort les moyens au niveau de ça. Ici, il y avait un système aussi qui forme les ONG handicapés, mais ça là, ça ne fonctionne pas. Mais ça y est, voilà, mais ça y est.
Merci beaucoup.
Parce qu'il y a pas vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Donc, moi, je fais un plaidoyer auprès de madame qui nous aide, le peuple vivant avec handicap, pour le centre, des centres de formation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Platini. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Manaka que vous intervenez. Chers auditeurs, on vous donne la parole. Soyez bref et concis parce que il y a d'autres auditeurs qui attendent, qui veulent également intervenir, témoigner, avancer des suggestions comme vous. Vous l'aviez fait et vous avez demandé à ce que madame Sarah et Priscilla Loutete puissent mener des plaidoyers afin de créer des centres spécialisés pour les enfants ou des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, monsieur Platini. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Manaka que vous intervenez. Jérémy, vous prenez la parole à partir de Lubumbashi. On vous la donne. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Tati, et bonjour également aux invités. Je pense que ce sujet doit interpeller tout le monde. Là, je fais allusion d'abord aux institutions de notre pays et surtout de parents qui sont là, qui doivent d'abord commencer avec ses enfants. Alors, je voudrais dire ceci, Laure. S'il y a vraiment du sérieux dans la prise en charge de ses enfants à partir de la famille, cela pourra impacter dans toute la société. Et je félicite quand même le chef de l'État qui a eu quand même à nommer, je pense, une ministre dans ses registres, ce qui donne quand même du tonus, ou c'est-à-dire un plus pour ne pas démarginaliser cette catégorie de personnes. Oui. Je voudrais d'abord commencer d'abord au niveau des écoles. Je pense que les parents doivent prendre, assumer leurs responsabilités. Lorsque un enfant arrive, il est au même titre comme tous les autres. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien encadrer ses enfants et jusqu'à ce que ses enfants soit envoyé, soit dans les écoles pour y suivre les enseignements. C'est là que maintenant se pose le problème. Parce qu'il y a différentes catégories de personnes du genre, parce qu'il y a celles-là qui sont affectées sur le plan mental, et il y en a, ce ne sont que peut-être des problèmes donc d'handicap d'ordre de mobilité qui leur pose problème. Là,
c'est Jérémy, pas. Si vous avez des questions dans les cadres, s'il vous plaît, Jérémy, le temps se graine vite. Allez-y à l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions à poser?
Oui, moi, je voudrais dire ceci. Il faut nécessairement qu'il y ait une des écoles, à travers toute la République, qui doivent encadrer ces enfants, parce qu'il y a certaines écoles qui n'accueillent pas ces enfants sous prétexte de ceci et cela. C'est là que nous voulons que les législateurs congolais puissent mettre le point sur les i, organiser les choses de manière qu'il ne puisse pas y avoir stigmatisation, dénigrement, ou soit déconsidérer ses enfants, mais qu'on puisse arriver à promouvoir par la scolarisation et aussi demander aux parents d'assumer leurs responsabilités. Je pense que nous pouvons faire les choses. Nous encourageons les témoignages de Madame Sarah, qui est en Suède, ce qui donne quand même, ce qui montre que quand on est handicap, ce n'est pas la fin du monde. Non. Avec le moyen, l'intelligence que Dieu nous accorde, vous êtes à même d'être utile pour la société et de pouvoir s'imposer. Rien ne peut vous. Mais ce que je voudrais poser, qu'est-ce que l'État a déjà fait pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre des personnes de cette catégorie dans des conditions les meilleures possibles?
Merci beaucoup, monsieur Jérémy. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. À ma connaissance, je sais qu'il y a des écoles spécialisées qui appartiennent à l'Église catholique le plus souvent concernant des enfants ou des personnes en situation de handicap. Et il y a également quelques promoteurs qui ont des écoles, mais sont des centres privés qui ne sont pas gérés par l'État, qui encadrent les enfants qui sont en situation de handicap mental. Il y en a quelques-uns hein, mais la formation coûte cher parce que ce sont des formations spécialisées. Excellente journée. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. On retourne aussi à Kinshasa pour donner la parole à Monsieur Tamouzi Michel, qui est encadreur, qui est directeur d'une école spécialisée. Monsieur Tamouzi, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, bonjour monsieur.
Parlez-nous un peu de votre école spécialisée dans la formation des enfants en situation du handicap. Elle est basée où et quel type de formation assurez-vous à ces enfants qui viennent chez vous?
Oui, je suis monsieur Tamouzi Sampaï Michel, directeur de l'école primaire d'éducation spéciale Kikessa, à sigle EPS Kikessa. Et l'école est située au quartier Livoulou, avenue Oasis, numéro 7/11, commune de Lemba, ici à Kinshasa.
Et vous accueillez quelle catégorie d'enfants?
Nous avons toutes les catégories avec nous, excepté les malvoyants, parce que là, nous n'avons pas de spécialistes en écriture braille. Nous avons des enfants en situation d'handicap, les moteurs, qu'on appelle les handicapés physiques. Nous avons les sourds, nous avons les retardés mentaux, toutes catégories, les IMC, les IMOC, les autistes, ainsi que les retards mentaux.
Et est-ce que les enseignements sont dispensés dans les mêmes locaux ou séparément, c'est selon la situation du handicap des enfants que vous accueillez?
De la maternelle, parce que nous avons la maternelle primaire, secondaire et humanité, de la maternelle jusqu'en quatrième année primaire, les enseignements sont dispensés séparément par rapport aux catégories d'handicap. Les sourds sont dans leurs classes respectives, entre eux seulement, et les autistes entre eux, les retardés mentaux entre eux. Et à partir de la classe de la cinquième année primaire et sixième, là ce sont des classes d'intégration que nous appelons inclusion. Là, tout le monde se retrouve ensemble parce que là, nous avons des spécialistes qui sont chargés pour toutes ces catégories-là. Donc, voilà un peu la présentation de notre enseignement à Kikessa.
Oui, mais dites-nous, monsieur le directeur, est-ce que vos candidats également prennent part à la grande session d'examen d'État et ils terminent avec quel diplôme?
Allô?
Oui, je disais, les enfants que vous accueillez dans votre école spécialisée, ils finissent le cycle secondaire avec quel diplôme?
Les cycles primaires avec les certificats national, comme tout autre enfant.
Parfait.
Mais c'est pas tous les enfants qui participent à cette certification-là. Parce que là, nous sélectionnons. Les handicaps sont par degré. Il y a des retardés mentaux, légers, et moyens, et profonds. Mais les profonds ne peuvent pas atteindre les sixièmes primaires là-bas. Nous sélectionnons les légers et les moyens qui ont des potentialités, qui ont des capacités d'affronter par rapport à leurs prestations, à leur assimilation, application. Ce sont eux que nous accompagnons pour atteindre ce niveau-là, même les niveaux secondaires et humanité. Mais par rapport aux autres, là, ce sont des enseignements spécialisés. Il y a les arts et métiers que nous les orientons pour leur autonomisation. Parce que ce sont des personnes à part entière comme, soi-disant, nous les valides, nous devons les rendre utiles dans la société. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez nous sans qu'il y ait
une qualification
ou une qualification. Donc voilà un peu dans l'ensemble de ce que nous réalisons.
C'est très encourageant, monsieur le directeur. Et dites-nous, est-ce que pouvez-vous nous faire une idée sur les taux de réussite et les taux de succès des enfants que vous accueillez? Est-ce que tous sortent avec une certaine autonomie en termes d'une activité, du travail, en termes d'autonomie sur les usages de la vie courante?
Bon, si je disais c'est à 100%, là je suis vraiment un grand menteur. Mais je vous dis que et à 70%, vraiment, il sort avec l'autonomisation. Parce que les profonds, en tout cas, là, vous ne...
La liaison se dégrade avec M. Tamouzi.
Un bon résultat et on demande aux parents de récupérer les enfants.
D'accord.
Et les autres où nous nous débrions, voilà, à toute sincérité. Et les autres qui nous nous débrions, ils arrivent quand même à faire, au lieu de gymnastique, pas l'examen d'État, pas les gymnastiques, ils font les jurys locales. Parce que là, nous organisons trois types d'épreuves, excepté les primaires. Au secondaire, là-bas, il y a l'épreuve des jurys locales, il y a un jury qui est organisé au niveau de l'école, mais les inspecteurs viennent pour présider les jurys. On leur donne un certificat, un brevet de fin d'études de cycle court, là au centre. Monsieur... Et ceux qui sont un peu avancés, ils participent au gymnastique, donc des jurys nationaux de fin de cycle court, où tout le monde, même les entendants, participe dans un centre d'examen d'État. Là, ils ont aussi le brevet de cycle court national. Et enfin, il y a les cycles longs pour les examens d'État. Donc, il y a de ceux-là que nous n'arrivons pas, nous appelons ça les cas difficiles. Et là, s'il y a un cas difficile, on prend au moins une ou deux ans pour l'étude de ces cas-là. Dès qu'on trouve qu'il n'y a pas de solution, on fait retourner l'enfant à famille.
Donc, voilà, monsieur le directeur, tous nos encouragements, hein, vous faites un travail très noble. Dites-nous, quelles sont les grandes difficultés rencontrées dans vos activités de tous les jours dans le domaine de l'enseignement spécialisé? Est-ce que vous avez un plaidoyer, un message particulier à lancer à l'intention des autorités qui nous suivent en ce moment?
Oui, vraiment, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés d'abord... formateur du côté technique, je vous dis avec toute sincérité, d'après ma connaissance, depuis que nous sommes là, nous travaillons avec un programme adapté de nous-mêmes. Il n'y a pas un programme national pour des personnes avec handicap. Il n'y a pas un programme. Je ne sais pas si les autres amis des différents centres, ils en ont, mais je ne pense pas parce que dans des réunions, nous nous retrouvons. Et nous nous plaidons par rapport à ça, que le gouvernement, via le ministère de l'enseignement spécial, puisse organiser et établir un programme national par rapport aux différents cas d'handicap que nous avons. Parce qu'il n'y en a pas, que ce soit les retardés mentaux, que ce soit les sourds, et même les aveugles, il n'y en a pas. Donc chaque centre se débrouille. Il prend le programme national et il adapte ça par rapport au niveau des enfants. Or, c'est pas le cas pour les valides. Donc, voilà, là, c'est une difficulté technique. Deuxièmement, il n'y a pas des écoles spécialisées de l'État public. Presque toutes les écoles, nous sommes des privés agréés. Privés, tout simplement. Mais ici, à Kinshasa, il n'y a pas une école spécial public, il n'y en a pas. Que l'État prenne en charge ses responsabilités, parce que toutes ces catégories-là sont des peuples citoyens congolais authentiques. Troisièmement, je dirais, difficulté aussi des centres de formation des enseignants spécialisés en la matière. C'est moins. Il n'y en a pas. Excepté des centres privés tels que je peux citer les SINFO, village Bondeko sur Kabambar. Et à part ça, il n'y en a plus ici à Kinshasa, il n'y en a plus. Et à Beno, à Bandundu, plus précisément dans les grands Bandundu, à Kwilu, à Beno, là où on forme aussi des spécialistes pour l'enseignement uniquement des sourds. Et maintenant, les retardés mentaux, les autistes, quel sera leur sort? Donc, nous avons, même chez nous, tous les enseignants ne sont pas des spécialistes. Et ça, c'est une très grande difficulté. Nous avons moins de spécialistes parce que les centres de formation ou des écoles de formation n'y existent même pas. Et en outre, c'est les moyens financiers. Nous ne sommes pas pris en charge. On est payé par l'État, mais l'État, c'est pas à 100%. Il y a des enseignants qui ont fait 5-7 ans, je vous dis, sans mécanisation, sans salaire. Comprenez un peu, mais avec des enfants à situation d'handicap, dans les écoles normales, là les enseignants sont payés, là les enfants ne posent pas beaucoup de problèmes parce qu'ils sont des soi-disant valides comme nous. Mais ces enfants à situation d'handicap, un père de famille, une mère de famille, qui viennent 5-7 ans, deux, trois ans, il vient travailler.
Il n'est pas payé.
À temps plein, mais il n'est pas payé.
Et vous recevez
quelle
également.
Quelle confiance professionnelle va-t-il réaliser? Vous comprenez un peu.
Oui, et vous, que nous. C'est très alarmant. Et vous recevez également les enfants en situation de handicap dont les parents n'ont pas assez de revenus, ils sont pauvres.
Là, j'arrive. J'arrive parce que nous avons aussi un internat. Mais si vous étiez venu, même aujourd'hui, vous allez rencontrer, nous sommes en vacances. Il y a un enfant qui est abandonné, qui est resté chez nous à l'internat. Il est là. Mais les parents sont ici à Kinshasa. Vu son handicap, il n'est pas accepté. Donc, une autre grande difficulté, non-acceptation des enfants à situation de handicap, même par leurs propres parents. Et a fortiori maintenant la société.
Merci beaucoup, monsieur le directeur.
Maintenant la société.
Merci beaucoup, monsieur Michel Tamouzi. Nous rappelons que vous êtes directeur d'une école spécialisée qui accueille les enfants en situation de handicap ici à Livoulou, dans la commune de Lemba. Excellente journée. Nous espérons que votre plaidoyer sera écouté. Excellente journée. Je me tourne vers vous, madame Sarah. Comment répondez-vous à l'auditeur de Mbandaka?
Merci beaucoup, monsieur, pour et je remercie vraiment tous les auditeurs qui sont en train d'intervenir. Pour les écoles, comme je vous ai dit au début, c'est ça notre travail. Et le directeur Michel Tamouzi qui vient d'intervenir, nous travaillons aussi en collaboration avec le centre Kikessa. Tous les cas qu'on appelle cas difficiles, ce sont les cas que nous prenons en charge. Parce que l'école voit que cet enfant ne va pas évoluer. Ce sont les cas pareils que nos centres récupèrent pour voir, oui, l'enfant ne peut pas aller, n'évolue pas avec l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on trouve une autre solution pour les enfants pareils. Et pour le monsieur Mbandaka, nous, c'est ça. À Kinshasa, nous sommes en train de nous battre pour installer nos centres dans tous les districts de Kinshasa, par exemple, Moamba, Lukunga, Tchangu et consorts, pour ne pas que cet enfant se déplace, comme on voit, un enfant sourd qui quitte Kingasani pour venir jusqu'au village Bondeko. Et puis, il faut qu'il y ait des bus. Ces enfants ne sont même pas acceptés dans les transports. Et puis, je vais encore répondre à ces messieurs par rapport à créer. Moi, je suis pour et contre, je l'ai toujours dit, c'est mitigé de créer des écoles ou des centres uniquement pour les enfants en situation d'handicap. Je pars de mon expérience. Vous pouvez, les auditeurs qui nous suivent, peuvent aller dans les Google. La Suède est le premier pays en Europe qui prend très, très bien en charge les personnes en situation d'handicap. Et la Suède est parmi les pays où en Europe le social est très développé. Donc, il y a des tendances. Je suis départagé. Je suis pour et contre. Pour créer les centres, comme notre ONG ou ASBEL est en train de faire, oui. Pourquoi? Parce qu'on sent que ces enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Travaillons créer ces centres, non pas seulement pour l'informer. Ceux qui peuvent aller à l'école, comme ma vice-présidente l'a souligné, ils vont à l'école, ils ont ce que nous appelons ici en Suède « stödpedagog », c'est-à-dire, quand ils viennent au centre, ils viennent avec leurs devoirs, ils viennent avec leurs cahiers, et nous avons des gens qui les aident. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Pour répéter, parce que il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes d'handicaps. Il y en a qui ont des difficultés de capter directement ce que le professeur dit ou l'enseignant. Et ces enfants ont besoin de ces soutiens pédagogues. Et ces soutiens pédagogues deviennent comme extra, je ne sais pas, pardonnez-moi, mon suédois avec le français, ça se mélange un peu. Donc, cet extra soutien qu'ils ont, c'est pour accompagner aussi l'école. Donc, l'enfant apprend deux fois la même leçon, à l'école et à notre centre. De l'autre côté, je suis contre, parce que je le vis ici. Moi, j'étais parmi les gens qui avaient dit, mais pourquoi vous mélangez les enfants? Oui, j'ai vu les résultats. Je connais les enfants autistes. Il y en a, si vous les mélangez, les personnes vivant avec handicap, vous les mélangez avec les enfants non handicapés, entre guillemets, et je l'ai toujours dit, donc les enfants soi-disant valides, ça devient comme un challenge. Mm. Comment on dit ça en français? Je ne sais pas. Ça devient
une
comme
compétition.
Oui, oui, exactement. Mm. Je suis avec les. Moi, c'est comme ça que j'ai étudié. J'ai un handicap. Mm. Donc je dois me battre double. Mm. Je dois dépasser l'autre qui n'est pas handicapé.
Oui, mais l'environnement, madame, l'environnement de l'Europe n'est pas le même à celui de la RDC. Vous avez écouté le témoignage de l'auditeur de Mandaka qui a dit qu'un enfant en situation de handicap n'a pas pu terminer l'année scolaire parce qu'il était l'objet de moqueries de ses camarades et il pleurait à la maison pour ne pas aller à l'école parce que lorsqu'il arrive, il était victime de la moquerie de ses camarades.
J'ai compris cette question, je vais y arriver. Je voulais dire ceci, c'est ça aussi la manque d'information. Mm. Ce n'est pas la faute de l'enfant qui s'est moqué de cet enfant vivant avec handicap. Mais c'est-à-dire, nous avons fait un spectacle, une activité, c'était au mois de juillet, le 5 juillet, mm. où nous avons mélangé les enfants vivant avec handicap et les enfants soi-disant valides. Ils ont joué, ils étaient sur la même scène pour voir comment ils peuvent travailler ensemble et comment ils peuvent se mettre en accord ensemble. Moi, j'ai dit, et là même, après la rentrée scolaire, mm. nous allons circuler toutes dans quelques écoles de la République démocratique du Congo mm. pour présenter un spectacle pour dire pourquoi pas moi, je suis comme toi, mm. je suis aussi. Le problème, nos enfants ne sont pas formés. Mm. Est-ce qu'il y a d'abord un groupe qui apprenne à nos enfants que l'handicap n'est pas une
fatalité,
n'est pas une fatalité. Mm. On n'a pas les cours de civisme. Mais tout dans ce sens-là, mm-hmm. non, il n'y en a pas. Moi, je pense que le problème n'est pas ces enfants-là. Le problème, c'est l'éducation de Kinshasa. On doit aussi faire introduire cette éducation, mm. de comprendre. Moi, j'étudiais et j'étais toujours la première de la classe. Mm. Même ici, mes statuts, en étant noir, c'est pas facile. Hein. Je dois vous le dire, je suis noir. Une femme, en plus encore personne vivant avec handicap, mais j'ai distingué à l'université, et la Suède m'a envoyé même à Sorbonne pour aller représenter la Suède. Mm. Et j'ai étudié avec les étudiants valides. Ça ne m'a pas causé les problèmes. Moi, je pense que c'est ça le travail des professeurs. Mm. Et c'est ça le travail, c'est ce que ma mère a fait avec moi. Mm. Ils ont tes pieds, mais tu es plus intelligente, tu es plus belle qu'elle. Regarde comme tu es. Ne te sous-estime pas. Mm. On appelle ça, chez nous ici en Suède, estime de soi. Mm. C'est ce qui manque aussi. Les parents qui ont des enfants vivant avec handicap. Tu es handicapé, mais tu peux arriver, tu peux devenir président de la République. J'ai toujours donné cet exemple. Roosevelt était président de la République, des États-Unis, en étant sur une fauteuil roulant.
Oui.
Est-ce qu'on se donne ça à nos enfants? Moi, je suis mitigé. Créer des écoles, oui, mm. pour les cas très, 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 très difficiles, mm. ou alors pour donner extra soutien, donc il y a un soutien, un plus de soutien après l'école. C'est ce que nous faisons dans nos centres, mais aussi les mélanger, mm. ça va leur montrer que je suis comme l'autre. Je peux aussi comprendre.
On vous garde en ligne, madame. On vous garde en ligne. Je me tourne vers vous, madame Priscille. Vous êtes la vice-présidente de l'ONG dénommée Centre de formation et d'intégration de personnes à mobilité réduite. Jérémy Mwamba de Lubumbashi, il a souhaité que ces écoles spécialisées soient également installées dans l'arrière-pays. Qu'en dites-vous? Parce que Kinshasa n'est pas le Congo.
Effectivement. Kinshasa, c'est pas que le Congo. Hein. Les RDC, c'est très, très grand. Donc, tout à fait d'accord.
Ouais.
L'idée de notre ASBL, c'est de s'implanter sur l'étendue de la RDC. Parce que l'éducation est fondamentale. C'est mmh. un droit fondamental pour toute personne sans distinction. Donc ça, déjà, c'est important de le mentionner. Et c'est là que, oui, on a besoin de plaidoyer auprès aussi du gouvernement pour la création des écoles adaptées pour ces enfants, mmh. tout en les incluant aussi avec les enfants à mobilité complète. Ça aussi, c'est très, très important. Comme l'a souligné la présidente, Madame Sarah, je mmh. suis tout à fait d'accord avec elle, ces centres doivent être utiles pour un soutien extrascolaire pour des cas vraiment particuliers.
Mmh.
Mais très important de pouvoir les associer. D'où l'importance de la sensibilisation, de la formation auprès des enseignants. Les enseignants aussi doivent être formés sur ça. Les familles aussi doivent être formées. Savoir comment parler, avoir des paroles positives auprès de leurs enfants. C'est le noyau, tout commence aussi par rapport à là. Et vous voyez, si les gens sont formés, si les gens sont conscients, ça va motiver les gens. Et les plaidoyers aussi seront multipliés pour qu'ils puissent avoir un avancement des constructions. Et des gens aussi se mettront en collaboration avec d'autres pour mettre en place ces structures.
On a ensemble parce suivi Madame Priscilla les plaidoyers du directeur hein, de l'école avec lesquels vous collaborez avec laquelle vous collaborez à Lemba à Lemba du côté de Livoulou qui a fait allusion également au problème au programme de formation qui n'est pas uniformisé au niveau national. Chaque centre de formation a son cursus, son curricula de formation.
Effectivement, il a souligné un point très important. Parce que cela aussi peut être perçu comme une forme de discrimination. Pourquoi les enfants à mobilité complète ont un programme national et pourquoi pas eux? Parce que finalement, en fonction de l'handicap, il y a des degrés, il y a un accompagnement. Et finalement, on peut le constater que même des personnes qui travaillent dans ce milieu, les enseignements, les méthodes qu'on leur donne sont les mêmes. Pour certains, ça prendra du temps. Pour d'autres, c'est plus rapide. Mais il est important d'avoir un programme national pour cette catégorie. Très important.
En guise de conclusion, Madame Priscilla Loutete, nous rappelons que vous êtes la vice-présidente de l'ASBL dénommé Centre de formation et d'intégration des personnes à mobilité réduite. Avez-vous un message particulier ou un plaidoyer à lancer en l'intention des auditeurs et des officiels qui nous suivent concernant surtout cette grande thématique de scolarisation des enfants en situation de handicap en RDC?
Oui, tout à fait.
Allez-y.
Déjà, donc, adapter les infrastructures scolaires. Ça peut commencer par les rampes, les toilettes, le mobilier, très important. Fournir le matériel adapté, comme l'a dit tout à l'heure le directeur Michel, eux ne peuvent pas recevoir des enfants malvoyants parce qu'ils n'ont pas le matériel adapté. Et c'est dommage pour un enfant qui habite loin de partir de l'autre côté, par exemple. Soutenir également les familles, très important. Valoriser la diversité. Sensibiliser la population, que ce soit auprès des enseignants, des familles, de tout le monde.
Merci beaucoup, Madame Priscilla Loutete, d'avoir été avec nous. Le temps est parti à l'émission en train de s'égrener vite. Excellente journée. Nous espérons que c'est pas la dernière fois. On aura d'autres occasions pour parler de vos activités, de vos actions. Excellente journée. Je me tourne vers vous, Madame Sarah. On profite en même temps pour s'excuser. Il y a des auditeurs qui voulaient prendre la parole. Malheureusement, on est coincé par les temps, donc on va se rattraper prochainement. En guise de conclusion, Madame Sarah Kibungu, qu'est-ce qu'on retient comme plaidoyer dans le cadre de ces rendez-vous?
Ce que je peux dire, merci d'abord, M. Tati, de nous avoir reçus sur votre plateau. Moi, je lance plus l'appel au chef de l'État. Et le chef de l'État, qui est vraiment, on doit le dire, le premier président à avoir pensé aux personnes vivant avec handicap. Moi, c'est que, et puis encore au ministère des Affaires sociales et au ministère auprès des personnes vivant avec handicap. Réunissons nos efforts pour que ces enfants soient scolarisés. Je vous assure que l'éducation ou la formation permettra à nos enfants ou des personnes vivant avec handicap à être autonomes.
Oui,
nous négligeons.
Madame Sarah, qu'est-ce qui doit être fait en priorité?
En priorité, d'abord, c'est la formation. Comme je vous ai dit, M. Tati, quand M. Michel Tamouzi dit que non, il n'y a pas de formaté, il a raison. Et puis, si vous regardez bien, ce sont des formations archaïques qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont encore été formés? Parce que le monde évolue. Il y a des matériels, le monde évolue. Moi, je me demande, est-ce que ces enseignants, chez nous, on appelle ça, je ne sais pas, désolé pour le français, mais on appelle ça comme, chaque fois, on peut être enseignant, mais on se forme.
Le recyclage.
On prend des...
Le recyclage.
Recyclage. Exactement, merci, monsieur. Alors, ils en ont besoin. Et puis, échange. J'ai dit ça même.
Le partage d'expérience.
Partage d'expérience. Venez en Suède, venez en France, cherchez des partenariats là où nos enseignants peuvent être.
Merci beaucoup. Qu'est-ce que les autres? Merci beaucoup, madame Sarah Lassark Kibungu. Nous rappelons que vous êtes présidente du Centre de formation et d'intégration des personnes en mobilité réduite. Ce n'est qu'une partie remise, hein, parce que le sujet a les goûts d'inachevé, mais on n'a pas le choix. Le temps imparti à cette tranche est largement consommé. Merci d'avoir été avec nous, hein, et d'avoir pris la parole depuis la Suède, et excellente journée. À la prochaine occasion.